L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le samedi 28 juin 1997. Il est 20h40 à Las Vegas. Le boxeur Mike Tyson vient tout juste de quitter son vestiaire pour rejoindre la salle de spectacle du MGM Grand Garden. Il est encadré par toute la team Tyson, le clan Tyson. La traversée du couloir paraît longue. La foule attend impatiemment et se déchaîne bruyamment. L'ambiance est survoltée. Dans quelques minutes, le célèbre Mike Tyson va monter sur le ring pour combattre Evander Holyfield, dans le seul but de prendre sa revanche sur celui qui lui a pris son titre de champion du monde 6 mois plus tôt. Celui qu'on surnomme entre autres l'homme le plus méchant de la planète paraît pourtant calme et serein pour ce match retour alors que l'enjeu est colossal. Il est concentré, il est déterminé. Il n'a qu'une phrase en tête. Si je ne suis pas capable de battre Holyfield ce soir, c'est que je ne le battrai jamais. La soirée s'annonce historique et le show fantastique pour tous les amateurs de boxe. À cet instant, personne ne peut imaginer la tournure dramatique que va prendre la rencontre. L'issue du spectacle va laisser les spectateurs présents et les téléspectateurs en direct du monde entier stupéfaits. Impensable, du jamais vu. 28 juin 1997. Nous sommes installés au premier rang devant le ring, dans la salle pleine à craquer du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. Il est 21h10, c'est l'heure H de notre histoire. Je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, dans le désert Mojave, à Las Vegas précisément, pour une soirée complètement folle, qui restera à jamais gravée dans les annales. Las Vegas, c'est pas par hasard que les Américains la surnomment Sin City, la ville du péché. Tel un mirage, c'est une gigantesque cité bâtie en plein milieu du désert. Mythique et sulfureuse, Las Vegas est souvent décrite comme une ville déjantée, symbole de tous les excès, de la démesure et des folies de l'humanité. Une des capitales mondiales des jeux d'argent et du divertissement, la plus grande ville de l'État du Nevada aux États-Unis est en constante frénésie. C'est simple, Las Vegas ne dort jamais. Ses casinos font partie des plus grands du monde. Ils sont ouverts 24 heures sur 24 et ont chacun une thématique particulière. De plus, Las Vegas offre des spectacles tout au long de l'année, des concerts, du cirque, de la magie, des courses automobiles et les plus grandes stars internationales du spectacle et de la chanson s'y produisent. De Céline Dion à David Copperfield, en passant par Lady Gaga et Britney Spears. Mais pour notre heure H d'aujourd'hui, il n'est question ni de tours de passe-passe, de lions qui disparaissent dans un nuage de fumée, ni d'acrobaties en collant moulant à paillettes, pas plus de grosses cylindrées et encore moins de strass ou de divas de la chanson. Aujourd'hui, il est question de sport de combat, et pas n'importe lequel. Le noble art, la boxe anglaise à son plus haut niveau, le championnat du monde. Las Vegas est depuis longtemps déjà un haut lieu des grands rendez-vous sportifs. Et les combats de boxe à haut niveau font partie des événements les plus populaires et excitants. C'est samedi soir. Nous sommes le 28 juin 1997. 16 000 spectateurs privilégiés se sont pressés au MGM Grand Garden pour assister à l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus de l'année, le championnat du monde WBA, World Boxing Association, catégorie poids lourd. La deuxième rencontre tant attendue entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Parce que oui, ce Tyson Holyfield 2 est bien l'affiche de la revanche d'un combat qui s'est déroulé 6 mois plus tôt. Afin de bien comprendre l'esprit et l'ambiance tendue et explosive qui règne ce soir, prenons notre machine à remonter le temps pour un petit retour en arrière. Dix ans plus tôt, en 1987, à tout juste 20 ans, le jeune Mike Tyson parvient à réunifier les ceintures mondiales des différentes fédérations de boxe et il devient le champion du monde incontesté de la catégorie des poids lourds. Après avoir victorieusement défendu son titre de champion à plusieurs reprises, celui qu'on surnomme Kid Dynamite ou Iron Mike accepte de combattre un certain Evander Holyfield, boxeur de 3 ans plus âgé et qui a eu quelques succès en catégorie poids lourd qui font de lui le challenger numéro 1. Hélas, la rencontre n'aura pas lieu tout de suite. D'abord, à la surprise générale, en février 1990, Tyson perd son titre de champion du monde par KO contre un certain James Buster Douglas lors d'un combat qu'il considérait pourtant comme un combat de préparation. C'est la première défaite de Tyson en professionnel. S'ensuivent différents aléas et blessures qui empêchent Tyson et Holyfield de se retrouver sur le ring. Et en 1992, c'est carrément le drame. Mike Tyson est mis en cause par une jeune fille de 18 ans qu'il accuse de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel à Minneapolis. Au terme de son procès, Tyson est jugé coupable et condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Il recouvre finalement sa liberté en mars 1995, moins de 3 ans après sa condamnation. C'est le grand retour très attendu et médiatisé de Tyson dans le monde de la boxe. Rapidement remis en forme et confiant après quelques combats de rentrée victorieux, il fait face à l'actuel détenteur de la ceinture de champion, un certain Frank Bruno. Ce dernier est vite dépassé par la puissance de frappe d'Iron Mike et se retrouve au tapis à la 3e reprise. Cette nouvelle victoire réinstalle Mike Tyson au sommet de la hiérarchie des poids lourds. Nous sommes en septembre 1996. 18 mois après sa sortie de prison, Tyson, à nouveau champion, semble n'avoir rien perdu de sa superbe et il entend bien le faire savoir au monde entier. C'est à ce moment que le médiatique promoteur de boxe Don King, manager de Tyson, a la bonne idée d'organiser le combat que le monde entier attend. Il propose à son poulain de combattre Evander Holyfield pour défendre sa ceinture de champion du monde. Don King n'a pas oublié l'acte manqué au début des années 1990, lorsque les deux champions devaient s'affronter. Organiser un combat très lucratif face à un adversaire à la notoriété importante permettrait à Tyson de retrouver l'élite de la boxe mondiale. C'est l'occasion rêvée pour lui de redorer son blason à une période où il a touché le fond. Car même s'il a récupéré le titre de champion du monde, il ne jouit pas d'une belle réputation auprès du grand public. Ses frasques à répétition dans les tabloïds le montrent très régulièrement comme un personnage violent, controversé. Mais bon, revenons à la boxe. Le 9 novembre 1996, c'est donc en tant qu'outsider qu'Evander Holyfield se présente face à Tyson sur le ring du MGM Grand Garden à Las Vegas. Mike est donné largement gagnant par les 48 journalistes couvrant la rencontre, qui prédisent à Holyfield une terrible défaite. Pour l'anecdote, seul le journaliste du Boston Globe donne le challenger gagnant au 9e round. Tout le monde pense que le combat est joué d'avance. On ne donne pas cher de la peau du boxeur vieillissant face à l'explosif champion actuel. Evander Holyfield a bientôt 35 ans. Il a beau affirmer qu'il a 5 ans d'expérience en plus, personne ne croit en un hypothétique exploit. Le combat commence.
Holyfield. Mike Tyson.
Iron Mike attaque son adversaire en trombe à la seconde même où la cloche du premier round retentit. Les rafales de coups pleuvent, mais le challenger ne rompt pas. Affûté physiquement et dominant techniquement Tyson, Evander parvient à contenir les assauts répétés du champion en titre. Le combat va définitivement tourner dans le 6e round. Devant la ténacité de l'ancien, la foule entière commence à pousser derrière Evander Holyfield et scande son nom pour l'encourager. Dans la dernière minute, Evander parvient à envoyer Tyson à terre sur un contre, d'un crochet du gauche au corps. Tyson va au sol, pour la 2e fois de sa carrière. Holyfield termine le round en trombe, acculant Tyson dans les cordes. L'avalanche des coups portés par Evander, combinée à l'absence de réaction de Tyson, contraignent l'arbitre à arrêter le combat. Tyson cède par chaos technique au 11e round. C'est la deuxième défaite de sa carrière. Contre toute attente, c'est le retour en grâce d'Evander Holyfield. Il marque l'histoire avec cette victoire à 34 ans. Il reprend le titre de champion du monde poids lourd pour la troisième fois de sa carrière. Les deux boxeurs sont chacun élus boxeur de l'année. Leur affrontement est élu combat de l'année. Une revanche entre les deux hommes est rapidement programmée pour le 28 juin 1997. Un peu moins d'un an après sa défaite à Las Vegas, Mike Tyson s'offre une revanche face à Evander Holyfield. Dominé en 10 rounds lors du premier affrontement, Tyson pense pouvoir prendre cette fois-ci le dessus sur son adversaire. Si le précédent combat entre les deux hommes avait déjà battu des records, celui-ci va placer la barre encore plus haute. Et les bourses sont de 35 millions de dollars pour Holyfield et de 30 millions pour Tyson. L'affiche reçoit le label de « combat du siècle » et l'événement sportif est retransmis dans 110 pays. Comme en 1996, Iron Mike est donné favori, mais les avis divergent. Beaucoup pensent que son passage derrière les barreaux et la défaite du premier affrontement ont montré certaines des limites de Iron Mike. Et ce 28 juin 1997 va bel et bien confirmer les limites de l'un des plus grands boxeurs de son époque. Bienvenue à nouveau au MGM Grand Hôtel à Las Vegas. La salle est pleine à craquer. 16 000 spectateurs se sont entassés dans les gradins. L'atmosphère, vous vous en doutez, est électrique pour cette nouvelle rencontre tant attendue. Ambiance de folie, la foule en liesse est survoltée. La surprise avait été tellement grande lors de la première rencontre que l'on ne sait plus à quoi s'attendre. 20h40, Mike Tyson est le premier à monter sur scène. Il est concentré. La revanche est capitale pour le boxeur qui a un blason à redorer. Holyfield, extrêmement croyant, termine une prière dans sa loge avant de rejoindre le ring à son tour. Il affiche un air confiant, un air décontracté. Le lancement de la soirée est rythmé par l'hymne américain chanté par une diva soul R&B du moment qui résonne dans l'immense salle. Il est 20h45. Le micro, suspendu par un câble, descend du plafond au centre du ring. Le speaker l'attrape et annonce « Ladies and gentlemen, it is showtime !» Présentation du troisième homme sur le ring, l'arbitre. Miles Lane, c'est pas un nouveau venu. Il assure pour son 96e championnat du monde. L'homme au micro enchaîne. Dans le coin bleu, le challenger, 30 ans, 1m78, 99 kilos, originaire de New York, à son actif 45 victoires, 2 défaites, 39 KO, portant son traditionnel short noir, venu pour prendre sa revanche et reconquérir le titre de champion du monde, Iron Mike Tyson. Face à lui, dans le coin rouge, l'actuel champion du monde, 34 ans, 1m89, 99 kilos, originaire de Géorgie, 33 victoires, 3 défaites, 24 KO, short violet, Evander, the real deal, Holyfield. Et puis, l'arbitre rappelle la règle du jeu. C'est le rituel de chaque début de combat. Les boxeurs sont au milieu du ring et l'arbitre énonce. Attention à la tête, pas de coup sur la nuque, pas de coup bas. Quand je dis break, vous reculez d'un pas et vous recommencez à boxer. Quand je dis stop, on arrête jusqu'à ce que je dise box. Tapez-vous dans les gants. Le gong retentit. La guerre entre les deux colosses peut commencer. À la grande satisfaction du public, les deux premiers rounds sont remplis d'action. Les deux hommes balancent leurs poings ravageurs et chacun esquisse tant bien que mal les coups surpuissants. Le début du combat est cependant favorable à Holyfield. Plus efficace dans ses coups, plus net, plus précis. Il remporte les deux premiers rounds. La deuxième reprise semble être toutefois à l'origine du dérapage de Tyson. Holyfield lui donne un coup de tête involontaire selon l'arbitre et le blesse à l'arcade sourcilière. Tyson apparaît très gêné et frustré le reste du round, se plaignant à l'arbitre de coups irréguliers de la part d'Holyfield. Au démarrage du troisième, Tyson retire son protège-dents sans tenir compte des remarques de l'arbitre. Un instant plus tard, les deux combattants sont accrochés l'un à l'autre et c'est à ce moment que Tyson, dans un geste totalement fou, mord l'oreille droite de son adversaire, lui arrache un morceau de cartilage. Le boxeur crache la partie de l'oreille sectionnée et fait mine de vouloir poursuivre le combat comme si de rien n'était. De son côté, Holyfield réagit vivement à la douleur en faisant des bonds de cabri sur le ring et en montrant avec son poing son oreille ensanglantée à l'arbitre. Miles Lane demande alors un temps mort. Sur le moment, personne dans la salle ne semble vraiment avoir pris conscience de ce qui vient de se passer. Et pourtant, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Mike Tyson?
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à Mike Tyson. Il fait partie de ces gens qui ont une vie chaotique, une histoire complexe à travers de multiples vies. Plus jeune champion du monde de l'histoire dans la catégorie poids lourd, il a connu des succès retentissants, mais aussi commis des erreurs de parcours. La plus importante, sans doute, c'est quand, lors d'un combat contre Evander Holyfield, Tyson décide de mordre l'oreille de son adversaire, affichant l'un des comportements les plus antisportifs de l'histoire de la boxe moderne. Un suicide sportif. Pour mieux cerner le personnage et tenter de comprendre comment il a pu en arriver là, il faut revenir aux origines et à son enfance. Michael Gerhard Tyson est né le 30 juin 1966 à l'hôpital Cumberland dans le quartier de Fort Greene à Brooklyn, État de New York, de ses parents Jimmy Kirkpatrick et Lorna Tyson. Michael est tout juste âgé de 2 ans quand son père abandonne la famille, laissant Lorna dans une situation très précaire. Son enfance est difficile, mais il mène une existence plutôt agréable jusqu'à ses 7 ans, Lorna s'assurant par tous les moyens possibles que lui, ainsi que son frère Rodney et sa sœur Denise, ne manquent de rien. La vie du garçon va basculer quand sa mère perd son emploi et qu'ils se font expulser de leur appartement. La petite famille atterrit alors dans le ghetto de Brownsville, où le crime, la drogue et la violence sont omniprésents. De pauvres, les Tyson deviennent très pauvres, puis carrément indigents. Une expérience de vie douloureuse, de squat en squat, dans des immeubles désaffectés sans eau ni électricité, qui est forcément très traumatisante pour un enfant. Le climat est hostile jusque dans la relation entre son beau-père infidèle et sa mère alcoolisée, qui en viennent souvent aux mains. Le jeune Mike comprend rapidement que sa mère n'est pas une sainte. Elle boit beaucoup d'alcool et ne craint pas de se battre avec un homme. Voilà. Voilà l'environnement dans lequel grandit Mike Tyson. Un environnement où les gens qui s'aiment se cognent dessus. En tant qu'être petit, rondouillard et introverti, le jeune Tyson est souvent sujet aux moqueries et à l'humiliation. Il est régulièrement le souffre-douleur des petites brutes du quartier. Il s'efforce de se cacher derrière sa grande sœur et encaisse sans broncher. Dès l'âge de 8 ans, afin d'essayer de s'affirmer dans cette jungle urbaine, il tombe dans la délinquance. Il commet plusieurs vols et délits en bande organisée pour le compte des plus grands. Ce n'est alors qu'un gamin en quête d'amour et de reconnaissance. Et c'est dans la rue qu'il va les trouver. Avec le temps et sous l'impulsion des aînés, il prend alors de l'assurance et réalise qu'il a une vraie force de frappe dans les poings. Il commence à se faire un nom dans le quartier et à gagner le respect de la rue grâce à la bagarre. Galvanisé par la nouvelle découverte du pouvoir magique de ses bras et de ses poings, Mike se met alors en tête de se venger de toutes les petites brutes qu'il avait tyrannisées pendant des années auparavant. Sale quart d'heure pour celui qui lui avait arraché ses lunettes de vue et jeté dans un réservoir d'essence. Et un coup pour celui qui a osé tuer ses pigeons apprivoisés. Un autre à tous ceux qui lui volaient son petit déjeuner fourni par l'école. Ah, ils font moins les malins. Après avoir goûté au déluge de pralines et autres bourre-pifs du nouveau Mike aguerri, prêt à en découdre avec tous ceux qui se dressent sur son chemin. Devenu un vrai petit caïd, Mike se fait très souvent arrêter par la police. Et à chaque fois, c'est pareil. Il est rapidement libéré parce qu'il est mineur. Le même scénario se reproduit des dizaines de fois. Chaque fois qu'elle vient le récupérer au commissariat, sa mère, Lorna, ne manque pas de lui filer à son tour une méchante raclée. C'est une mère désespérée qui ne le comprend pas et ne croit plus en son voyou de fils. L'adolescent enchaîne alors les écoles spécialisées, les maisons de correction, sans vraiment de succès pour le remettre dans le droit chemin. Il est en colère contre tout le monde et s'attire toujours des ennuis. À l'âge de 13 ans, à cause de son mauvais comportement et après une trentaine d'arrestations, il est placé dans un nouvel établissement sécurisé, destiné aux incorrigibles. À peine débarqué, il est très vite remarqué par un des gardiens, Bobby Stewart, ancien boxeur, du fait de son physique athlétique et surdéveloppé pour son âge. Il faut dire qu'à seulement 13 ans, Mike Tyson pèse déjà près de 80 kilos. Un beau bébé, dirons-nous. Alors que tous les profs sont unanimes et le considèrent comme à moitié débile, sachant qu'il ne sait ni lire ni écrire, l'ancien boxeur devenu gardien passe un marché avec les garçons. S'il reste à l'écart du trouble et qu'il déploie beaucoup d'efforts à l'école, il lui apprendra tous les rudiments de la boxe. À partir de là, le jeune apprenti change d'attitude et saisit la chance qu'on lui donne. Pendant plusieurs mois, Mike Tyson se tient à carreau. Il s'applique et arrive à acquérir des notions élémentaires de lecture. Il se montre aussi très déterminé lors des entraînements de boxe avec son éducateur providentiel. Stewart transmet à Tyson tout ce qu'il sait de la boxe. Il croit bon d'introduire le boxeur aspirant dans le club de gym de M. Cus D'Amato. Constantine, dit Cus D'Amato, est un légendaire manager de boxe, reconnu pour afficher beaucoup d'intérêt pour les boxeurs prometteurs. En 50 ans de métier, D'Amato a vu défiler des centaines de boxeurs, des bons et des moins bons, voire des mauvais. Tous voulaient la même chose, devenir le meilleur. Son établissement a pour but d'accueillir les jeunes défavorisés et de leur apprendre la boxe. Sur place, Tyson fait une rapide démonstration de sa force de frappe sur le ring d'entraînement. Le septuagénaire n'a besoin que de quelques minutes pour comprendre tout le potentiel du jeune garçon. Il lui dit « T'es splendide, Mike. T'es un grand boxeur. Si tu m'écoutes bien, je ferai de toi le plus jeune champion des poids lourds de tous les temps. » Waouh ! Là, le garçon tout juste essoufflé n'en revient pas. Cet homme qu'il ne connaît pas lui prête toute son attention et lui promet un avenir meilleur. Les jours qui suivent sont magiques. Mike est bouleversé par cette rencontre, totalement subjugué par ce grand gourou de la boxe arrivé de nulle part dans sa vie et qui, visiblement, lui veut du bien. Il est surexcité par cette nouvelle expérience et travaille dur à l'entraînement. Aussi, il ne perd pas une miette des discours et des enseignements que lui inculque son mentor. Mike demande rapidement à sa mère l'autorisation express de venir s'installer à plein temps chez son père d'adoption. Et lorsqu'il découvre la maison de ce généreux mentor, il est comme dans un rêve. Cus D'Amato est très probablement la rencontre la plus importante qu'ait fait Mike Tyson. Il l'entraîne à la dure, sur le ring, comme dans la vie en général. Il est bien plus qu'un entraîneur de boxe. Il lui transmet de vraies valeurs. Dans les moments où le jeune apprenti a envie de tout laisser tomber, quand il est épuisé et il n'arrive plus à rendre les coups à son sparring partner à l'entraînement, le maître s'approche de lui pour lui parler les yeux dans les yeux, afin de le motiver sans relâche à continuer encore et encore à s'entraîner. Tout ce que t'as à faire, lui dit-il, c'est m'écouter attentivement. Les rois et les reines connaîtront ton nom. T'entends ce que je te dis, fiston? Le monde entier saura qui tu es. Ton nom de famille régnera sur la terre. Les gens respecteront ta mère, ta famille, tes enfants. Quand tu entreras dans une pièce, ils se lèveront pour t'applaudir. Cus D'Amato s'intéresse au jeune homme. Lui demande de raconter encore et encore ses histoires d'enfants maltraités. Les brimades de l'enfance ont laissé des traces. Toutes ces humiliations, toutes ces vexations. Voici certainement pourquoi Mike Tyson va montrer au monde l'image d'un mec féroce, impitoyable. Aussi, grâce à la confiance que Cus D'Amato lui a forgée, il sait que personne maintenant ne peut l'humilier physiquement. Le jeune Mike fait son premier combat amateur à 14 ans. Oh, il n'emmène pas large sur le ring. Mais la rencontre est vite expédiée et au troisième round, le grand portoricain de 4 ans son aîné est étendu au sol. Ne sachant pas comment célébrer sa victoire, tellement euphorique, le pâteau Tyson marche sur son pauvre adversaire, les bras en l'air. Il enchaîne ensuite les combats clandestins, puis plus officiels, mais toujours en amateur. En juin 1981, il remporte la médaille d'or de champion olympique junior en gagnant tous ses combats par KO au premier round. Lors de la finale, il allonge son adversaire en 8 secondes, un record de rapidité longtemps resté inégalé. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Grâce à cette médaille d'or, il devient un héros et, comme après chaque bon combat, Cus D'Amato le récompense. De belles fringues, de jolies chaussures. Cette fois, il lui achète carrément des dents en or que le boxeur arborera fièrement pendant des années. Décidément, Mike aime l'environnement familial que Cus D'Amato lui prodigue. Et surtout, il l'aime lui. C'est le premier type blanc qui non seulement ne le juge pas, mais aussi qui est prêt à se battre contre tous ceux qui lui manquent de respect. Aucun homme n'a jamais compté autant dans la vie du jeune boxeur. Sous l'impulsion de Cus, il rêve de gloire, de célébrité. Il veut que le monde le regarde et le trouve magnifique. Pour autant, il n'oublie pas l'école et il continue d'apprendre. Il a soif de connaissances et se découvre même une nouvelle passion pour l'histoire et la lecture. Après avoir remporté les championnats olympiques juniors pour la seconde fois, Mike rentre auprès de sa mère qui, malheureusement, meurt peu de temps après. Les vieux démons du garçon reviennent. Il se remet à boire, à traîner et à voler. Alors que tous les jeunes défavorisés et désœuvrés du quartier de Brownsville rêvent d'un avenir meilleur, ils ne comprennent pas pourquoi Mike ne retourne pas auprès de cette famille de blancs qui lui veut tant de bien. En réalité, le jeune Tyson est complètement perdu. Il cherche à comprendre qui il est vraiment. Ses deux existences sont diamétralement opposées et pourtant, il se sent chez lui dans les deux mondes. Il retourne chez Monsieur D'Amato qui va le réconforter et l'aider à surmonter la mort de sa mère. En 1984, il a 18 ans, et il a la chance de participer aux Jeux Olympiques dans la cour des grands cette fois. Il est éliminé dès le premier combat. Tout le gratin de la boxe amateur le déteste. On n'apprécie pas son attitude de gamin arrogant venu des quartiers pauvres. Et Tyson a beau essayer de toujours faire attention à son comportement, le voyou du ghetto gronde toujours en lui. Il devient ensuite professionnel et décide, dès son premier combat, d'adopter une apparence spartiate comme ses héros. Vêtu d'un short noir et de chaussures basses en cuir noir, sans chaussettes, sans peignoir, avec une coupe de cheveux militaire, Tyson terrorise la plupart de ses adversaires par son look de gladiateur invincible et effrayant, mettant en avant son torse bodybuildé. C'est le style Tyson et ce look ne le quittera plus. Dès ses premiers combats, Tyson impose son rythme en mettant ses adversaires KO. Alors on peut dire que Mike Tyson démarre fort sa carrière professionnelle en gagnant ses 19 premiers combats par KO, dont 12 dès le premier round. Il reçoit son premier surnom, Kid Dynamite, et la presse se fait l'écho du nouvel élève de Cus D'Amato. Et le mentor du futur champion meurt le 4 novembre 1985 à 77 ans, à la suite d'une pneumonie. Il n'aura pas l'occasion de voir les principaux exploits de son petit protégé. Mike Tyson est bien sûr très affecté par la mort de son père d'adoption. Il déprime. Il se sent abandonné, orphelin. Rien n'a plus vraiment d'importance pour lui. Il ne se bat plus que pour l'argent. À nouveau, comme après le décès de sa mère, il ne pense plus qu'à boire, se défoncer et faire la fête. Les combats continuent, les chaos s'enchaînent, mais M. D'Amato lui manque terriblement. Plus personne pour lui dire ce qui cloche après un match. Plus de père pour le rappeler à l'ordre. Cependant, Mike s'efforce de mettre ses sentiments de côté et se jette à corps perdu dans la boxe. Il devient le centre d'attraction des médias. Tyson doit composer avec la notoriété. Il fait la une des magazines et commence à côtoyer les stars du show business. Côté sportif, il multiplie les combats, frappe comme une brute et s'alcoolise lourdement après les rencontres. Sous l'effet de l'alcool et de substances illicites, la carrière de Tyson va vite prendre une tournure peu glorieuse. Au départ réputé pour son style offensif complexe, Tyson semble se fier uniquement à la puissance de ses coups pour mettre fin au combat. S'en suivent des déboires avec la justice, par suite d'une violente bagarre de rue, puis un accident de voiture sous l'emprise de drogue, ainsi que des procédures judiciaires interminables à la suite de son divorce houleux avec une actrice de sitcom américaine, épousée un an plus tôt. Le comportement de Tyson devient de plus en plus violent et imprévisible. Il perd le contrôle de sa vie, autant sur le ring qu'à l'extérieur de celui-ci. Les années 1990 marquent le début de la fin pour le champion, qui s'incline par KO en février 1990 pour la première fois de sa carrière et qui termine derrière les barreaux en 1992 car il a été reconnu coupable de viol.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est aux côtés de l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la boxe, Mike Tyson. Il est sans doute le poids lourd le plus terrifiant de la boxe anglaise. Aussi fou que puissant, Iron Mike s'est imposé tout en haut de son sport, en distribuant des KO à tous les poids lourds qui se mettaient en travers de son chemin. Plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, en 1986 à 20 ans et 4 mois, Kid Dynamite a enchaîné les moments de gloire avec une série de 37 combats sans défaite et un total de 50 victoires, dont 44 par KO sur les 58 combats de sa carrière. Mais aussi les dérapages, avec une défaite improbable en 1991 et ce match tragicomique contre Evander Holyfield en 1997. Tyson Holyfield. C'est l'une des rivalités les plus médiatiques de l'histoire de la boxe. Annoncée dès la fin des années 80 et au début des années 90, cette rencontre entre Mike Tyson et Evander Holyfield ne verra pas le jour avant 1996 pour une victoire surprise d'Holyfield. Le remake est alors programmé l'année suivante et ce qui devait être une revanche pour Mike Tyson restera dans les mémoires comme l'un des spectacles les plus indignes et fous de l'histoire de la boxe. Nous sommes le 28 juin 1997. Il est 21h passé et le combat prend une tournure totalement inattendue. Mike Tyson vient de mordre et d'arracher un bout d'oreille à son adversaire Evander Holyfield. Le combat s'arrête momentanément. Le temps pour l'arbitre d'avertir Tyson qui écope de 2 points de pénalité. Les blessures aux oreilles n'étant pas considérées comme graves dans le règlement, l'arbitre annonce la reprise du jeu. Le combat reprend presque normalement. Mais contre toute attente, quelques secondes seulement après la reprise, dans un nouvel élan de folie, Tyson mord de nouveau son adversaire, cette fois-ci à l'oreille gauche. Evander Holyfield se dirige vers les juges pour leur montrer la morsure. Les écrans géants installés dans la salle diffusent l'action au ralenti. Cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Mike Tyson est disqualifié au troisième round et s'incline face à Evander Holyfield pour la deuxième fois en moins d'un an. On attendait tout de la boxe. Sauf ça. Rien ne peut expliquer un geste pareil. C'est l'affolement dans la salle. Il règne la confusion la plus totale. Personne n'arrive à croire ce qui s'est passé. Mike Tyson, déchaîné, veut continuer à en découdre et tente de s'en prendre de nouveau à son rival. Le staff technique des deux clans, les organisateurs, les journalistes, les commentateurs, tout le monde envahit le ring. Les agents de sécurité et ceux de la police locale montent à leur tour pour contenir un Tyson incontrôlable qui balance des coups de poing dans tous les sens. Il semble avoir totalement perdu la raison. De nombreux incidents sont provoqués par le public ce soir-là. On relève une quarantaine de blessés à la fin de la journée. Les journalistes déclarent « c'est moche pour la boxe, c'est triste pour tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment la boxe ». Interrogé par le speaker, l'arbitre s'explique et annonce officiellement la raison de cette disqualification. Morsure à l'oreille à deux reprises. Pendant ce temps-là, les deux boxeurs retournent sous bonne escorte au vestiaire. Tyson quitte l'arène sous les huées et les sifflets de la foule. Le roi Mike Tyson est déchu devant les caméras du monde entier. Il est KO. Cet écart de conduite met un peu plus en lumière la défaillance au niveau mental de Mike Tyson, certainement considéré comme le plus gros défaut de sa carrière. Immédiatement, la commission de boxe de l'État du Nevada suspend la licence du boxeur pendant un an. Parallèlement à cela, il est condamné à verser à Holyfield 10% de la bourse qui lui était attribuée, soit 3 millions de dollars. Cette soirée désastreuse semble bien annoncer la fin de l'ère Tyson. Sportivement parlant, en tout cas, c'est une certitude. Tyson ne remontera sur le ring qu'en janvier 1999. Sa carrière ne repart pas, même s'il continue de faire rêver plus d'un amateur de boxe. Il ne combattra plus qu'une dernière fois pour un titre mondial, le 8 juin 2002, face à l'Anglais Lennox Lewis, pour une cuisante défaite par KO. Et bien qu'il réussisse à glaner une 50e victoire en 2003 contre l'Américain Clifford Etienne, ses deux derniers combats au niveau professionnel perdus en 2004 et en 2005 sont synonymes de fin de carrière. L'ancien champion déchu prend définitivement et tristement sa retraite sportive. Mike Tyson reste et restera malgré tout et pendant longtemps dans les mémoires des passionnés de boxe anglaise. Les années suivantes de sa vie sont entachées de multiples accusations de violence physique, de harcèlement sexuel et d'incidents publics. En plus d'avoir fait de mauvais investissements, il est impliqué dans plusieurs procès qui lui coûtent des sommes exorbitantes. Il passe de plus riche boxeur de l'histoire à retraité sportif totalement ruiné. Aussi, dans le but de rembourser ses dettes, Tyson remonte dans l'arène en livrant une série de combats d'exhibition. Icône mondiale ayant dépassé les frontières du sport, il reste un personnage fascinant qui continue de faire parler de lui. Il se présente sur scène dans un one-man show à succès où il raconte avec malice les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie. Il apparaît dans plusieurs séries télévisées, fait le tour des plateaux de télévision pour promouvoir son autobiographie. Il fait désormais partie de la pop culture. On le retrouve ainsi régulièrement au cinéma, au casting de plusieurs blockbusters populaires. Il apparaît même dans des jeux vidéo, en prêtant son image et son nom très tôt à l'industrie vidéoludique. Quant à l'histoire entre Mike Tyson et Evander Holyfield, elle ne s'arrête pas là. En 2013, 16 ans après leur dernière rencontre pathétique sur le ring de Vegas, les deux boxeurs apparaissent dans un spot publicitaire pour la marque Foot Locker. Dans la vidéo, Tyson se retrouve face à son ancien rival et s'excuse en lui offrant une petite boîte supposée contenir le morceau arraché de son oreille. Holyfield accepte, le sourire aux lèvres, et ils finissent par se réconcilier en s'étreignant dans les bras l'un de l'autre. Sacré coup de pub. Alors que les deux protagonistes semblent bien avoir tourné la page de leur carrière sportive respective, une rumeur folle court dans les médias à partir de 2020 quant à un hypothétique nouveau combat d'exhibition entre les deux hommes devenus quinquagénaires. Les deux ex-rois des lourds s'affichant à l'entraînement pour promouvoir leur retour sur le ring pour cette rencontre à but caritatif. Ils affolent les réseaux sociaux, laissant libre cours aux spéculations les plus folles. Si l'idée paraît inédite, à ce jour, les fans restent dans l'attente et continuent de fantasmer sur ce Tyson Holyfield. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Samuel Lemaire.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.